Bonjour à toutes et à tous. Il y a souvent dans la famille, on voit des enfants, on se dit, ça, ils ont l'air de la famille. Ils sont tous pareils ou non, 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 ils ne sont pas tous pareils. Mais il y a quelque chose qui montre que c'est de la même famille. Mais parfois, il arrive qu'ils sont carrément différents. On n'a pas l'impression que c'est des frères. Il y a parfois où ils sont tellement différents qu'on ne voit pas le rapport entre les deux. Mais très souvent, il y a quand même un air familial, il me semble, dans toute la famille, en tout cas chez nous, dans la famille, c'est un petit peu ça. Et pourtant, il arrive parfois où il y a une naissance, c'est des jumeaux, mais ils sont carrément différents l'un et l'autre, à tel point qu'ils sont carrément opposés l'un et l'autre. Ce qui doit être rare, il me semble, en tout cas, c'est pas courant. Normalement, on parle de jumeaux, de vrais jumeaux, même de faux jumeaux, mais ils ont quelque chose apparemment en commun. Mais il y a, ça existe aussi, des jumeaux. Le même père et mère, la même période, ils ont été tous les deux dans la même grossesse, et pourtant, ils sont carrément différents. Et c'est ça que la Torah nous raconte dans cette paracha, qu'il y avait Yitzhak et Rivka, donc Yitzhak, c'était le deuxième patriarche, Isaac, le fils d'Abraham, et ils se sont marié Yitzhak et sa femme Rivka, ce qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha de la semaine dernière. Et ils ont attendu très longtemps. Au bout de 20 ans, ils ont une naissance. En fait, ils ont une grossesse qui commence et ensuite des naissances. Mais pendant la grossesse, Rivka est sentie très très mal. Donc elle cherche à comprendre pourquoi. Apparemment, elle n'a pas vu que les femmes souffrent autant comme elle. Elle souffre. Elle va demander à Dieu ce que se passe. À Dieu, ça veut dire ici au prophète qui existait à l'époque. Donc, le prophète était Shem. Shem était encore le fils de Noé qui restait encore parce qu'il a vécu très longtemps, selon ce que la Torah nous raconte. Donc, les périodes, comme on a parlé déjà, les périodes avant le déluge, les gens, ils ont vécu très, très longtemps. Après, Dieu, il a réduit la vie, donc à tel point que le maximum était à peu près en tout cas, on est resté très loin de ce que c'était la vie avant le déluge. En tout cas, Shem, qui était quelqu'un, il est né avant le déluge, donc il a vécu encore, même si sa vie était beaucoup plus courte que ce qui était avant le déluge. En tout cas, Rivka, elle va demander à Shem, qui était prophète, pourquoi elle souffre tant. Alors Shem lui dit, tiens, deux bébés. Mais ces deux bébés, ils sont carrément différents. Et non seulement qu'ils sont carrément différents, ils se battent. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça va dire. Mais on peut dire, en tout cas, il y a bien sûr des explications, des idées, mais là on va essayer de rester dans l'idée des symboles plutôt. Et c'est que, ici, il explique que les différences entre les deux frères, c'est pas une différence, c'est une différence de fond. Ils sont carrément différents. Non seulement qu'après, ils voient un différent, mais ils sont carrément différents. C'est pour ça que, quelque part, il y a ce conflit déjà à l'intérieur d'elle. Encore, c'est un sujet qu'il faut comprendre comment ça va au niveau physique, parce qu'elle a souffert au niveau physique, elle a senti quelque chose, une malaise au niveau physique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le fait même qu'ils sont déjà différents dans le ventre de sa mère et de leur mère. Normalement, les différences, très souvent, on voit quelqu'un qui se comporte mal, alors on dit, tu es mal éduqué. Parce que très souvent, en tout cas, ça c'était surtout à l'époque, aujourd'hui, on est dans une autre période où on est perdu dans l'éducation, mais à l'époque, c'était une expression, pas seulement à l'époque, même aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus. Quand quelqu'un qui se comportait mal, on disait, tu es mal éduqué, on t'a éduqué mal. Donc, les comportements liés avec ce qu'on était éduqué à la maison. Donc, l'identité de la personne est liée avec son éducation. Et c'est vrai aussi. Mais ici, la Torah nous révèle que non. C'est pas que non, c'est non seulement. Ça veut dire qu'il y a parfois, ou quelqu'un, il a un caractère. Et ce caractère, elle dépend pas de l'éducation. Elle est, comme il est marqué ici, que Shem, il explique à Rivka, qu'ils sont carrément, depuis le ventre, ils sont déjà différents. Yaakov, il va être celui qui est le studio, celui qui est étudié, il va s'intéresser au spirituel, mais il va s'intéresser à tout ce qui est intellectuel. Et Isaac, ça va être un homme qui va chercher à chasser, à perdre son temps. Donc, ils sont carrément différents. Ils sont carrément différents aussi parce qu'ils savent. Il était quelque part mauvais. Il s'est comporté d'une façon mauvaise. Même sur son physique, il était roux. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est roux. Est-ce que quelqu'un de roux, il est mauvais? Pas du tout. J'ai beaucoup d'amis roux. Mais parfois, on dit, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou non, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais. À l'époque, on disait que être roux, c'est pas une couleur, c'est un caractère. Un caractère bien, parfait. Et on a besoin de gens qui sont un petit peu, on va dire, moins enfermés, moins plus excitants. Parfois, on a besoin de cette dynamique. Et c'est intéressant que, en tout cas, ça c'est une parenthèse qu'il faut vérifier, c'est pas clair. Mais en tout cas, et ici, de ce qui concerne Esav, il était roux, et la Torah, on peut comprendre de la Torah que c'est pas seulement qu'il était très roux, et on peut comprendre d'ici que c'était un caractère qu'il était très très excité, si on peut dire. Donc, il était très excité. Et il a fait des choses comme on voit dans sa vie. Il a tué, donc c'était comme on trouve aussi à la suite dans la bénédiction de Yitzhak qui l'a béni finalement son fils et Esav aussi. Alors, il dit, tu vas vivre sur ton épée. Donc, l'épée est liée avec Esav. Là aussi, il faut comprendre pas mal de choses que je ne vais pas rentrer dedans. Comment c'est une bénédiction que quelqu'un il vit sur son épée. Alors là aussi, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit qu'Esav, il était un tueur. Donc, des animaux et parfois des hommes aussi. Donc, alors, c'est vrai que le fait même qu'on est excité, ça peut tourner vers le bien et vers le mal, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens excités et il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent de là. Les gens qui sont excités, et s'ils sont bien dirigés, ça peut être un moteur que les gens qui ne sont pas excités, ils font pas, ils sont tranquilles, ils font pas, mais les gens excités. D'ailleurs, on dit que tous les rabbins de Chabad, ils ont été tous roux, sauf notre dernier rabbi, mais c'est intéressant. Donc, alors, quelque part, dans la vie, il y a des choses. Encore, c'est vrai que c'est une parenthèse, le roux, je ne sais pas. Forcément, en tout cas, même si on va dire que la couleur a un rapport avec le caractère, mais c'est pas forcément, ça peut être bien, l'homme il est excité, il est en mouvement. Mais si on l'utilise pas comme il faut, alors ça peut être mauvais. Si on l'utilise comme il faut, ça peut être constructif. Comme on voit qu'il y a dans la société, il y a des gens normaux, mais il y a des gens qui sont, ils ont beaucoup d'énergie. Et si on l'utilise bien, ça peut être magnifique et productif, et on a besoin de gens comme ça. En tout cas, c'est une parenthèse par rapport à ce sujet, mais si on revient à notre sujet, Esav était, donc, ce que la Torah nous raconte, les prophéties qui était raconté ici, donc ce qu'ils savent, il va être carrément différent que Jacob. C'est Jacob, il va être quelqu'un qui va étudier, qui va utiliser son temps, qui va être bien avec les autres. Et Esav, ça va être le contraire. Donc alors, non seulement il va être excité, il va utiliser ça pour des mal. Et quelque part, il rajoute, donc Shem, et il raconte à Rivka, il dit, ça va être deux peuples qui sortent de ton intérieur, de ton ventre, et ils vont donc être en conflit toute leur vie. Non seulement qu'ils vont être en conflit, c'est que ça va être deux peuples qui vont avoir des conflits. Et ces peuples ne peuvent pas vivre en paix. Lorsque là il va monter, l'autre il va descendre. C'est comme une balance. Donc c'est très décourageant cette notion. Ça veut dire qu'on nous annonce qu'il y a deux peuples. Donc il faut, c'est même pas la peine de chercher de faire de la paix entre eux. Qu'est-ce que ça va dire? Il ne faut pas chercher de faire de la paix. Aujourd'hui, on cherche à tout moyen de faire de la paix. Et pourtant, ici, il est marqué où le homme, il émate cette phrase qui nous choque. Alors, il faut savoir que, bien sûr qu'il faut faire la paix, il faut chercher à faire la paix, il faut trouver la paix. Mais parfois, il faut voir comment, il faut reconnaître la réalité pour savoir aussi comment on fait la paix lorsque on cherche la réalité. Parce que si je ne connais pas la réalité, j'ai beau, et je peux essayer de faire des choses, mais je n'ai pas compris le problème. Donc ici, il y a un problème de fond. Parfois, il y a un problème de conflit. Pourquoi on est en conflit? Parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre pour telle et telle raison. Donc alors, quand on va régler ces problèmes, alors tout va bien. Mais parfois, il y a un problème de fond. Et si on ne touche pas le fond, alors à ce moment-là, on va régler des petits problèmes, on n'a pas réglé les choses, donc ça va flotter. Comme quelqu'un qui a un problème médical profond, et il va utiliser un médicament qui va arranger au niveau superficiel, mais ça n'arrange pas les problèmes, parce que les problèmes sont de fond. Il faut toucher et il faut réparer le fond pour que les choses soient réparées. Mais si on répare d'une façon superficielle, ça ne va pas. Donc, alors, quelque part, la Torah nous raconte. La Torah nous annonce, à savoir qu'il y a un conflit. Pourquoi Dieu il a prévu le conflit? C'est une autre question. Et la Kabbale nous parle de ça, ou peut-être on va y arriver. La Torah nous dit qu'il y a un conflit. Et le conflit est un conflit de fond. Donc, alors, à ce moment-là, il faut comprendre que si on va peut-être sourire l'un vers l'autre, ou bien que c'est toujours bien, on dire bonjour, etc., c'est pas ça qui range le problème, parce que le problème est un problème de fond. Donc, alors, lorsqu'on parle parfois d'essayer de faire la paix, si on n'a pas compris le fond de l'histoire, on ne va pas arranger, même si il faut arranger les problèmes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de mon deuxième pensée, de quoi je pense. Chacun peut penser de quoi on parle, mais en tout cas, on est dans un conflit parfois, et aujourd'hui surtout, qu'il faut comprendre le fond des problèmes, et à ce moment-là, on peut espérer d'arranger les problèmes. Si on n'a pas compris le fond des problèmes, on va faire quelques petites choses pour arranger le problème, donc le problème ne va être jamais arrangé. Donc alors, on trouve cette idée dans notre paracha. Alors, si je résume, avant d'aller plus loin, la paracha nous annonce déjà que dans la naissance, et avant la naissance déjà, depuis le ventre de leur mère, Jacob et Esav sont carrément différents. Ils vont créer deux peuples différents, deux peuples qui ne vont pas l'un avec l'autre. Et donc, ils ont un problème de fond. Et il faut savoir que c'est un problème de fond, pour savoir comment on règle. Maintenant, au niveau spirituel, on va revenir finalement à ce que c'est au niveau physique, mais au niveau spirituel, c'est aussi vrai. C'est pas ce que c'est aussi vrai. Quelque part, la Torah nous raconte ici, dans cette paracha, que c'est ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire que chaque fois où on étudie la paracha de la semaine, il faut la considérer que c'est une paracha unique. Ça veut dire que le message de cette paracha est unique et on ne trouve pas nulle part. Et c'est vrai que par rapport à notre paracha, c'est beaucoup plus facile de trouver cette idée parce que quelque part, ça nous donne l'idée qui nous sommes. Parce que tout à l'heure, on a parlé de deux peuples. Mais les peuples, c'est deux peuples qui sont extérieurs de nous. Ou bien on fait partie d'un peuple, ou bien on fait partie d'un autre peuple. Mais ici, on parle de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, comme il est marqué dans notre paracha, il y a un conflit. Et ce conflit, il faut savoir le régler. Mais il faut connaître qu'il y a un problème. Et pour pouvoir diriger, pour pouvoir gérer, il faut savoir les problèmes, il faut connaître les problèmes. Donc, à ce moment-là, on a un risque, on a une possibilité de sortir des problèmes, en tout cas d'arranger les problèmes, en tout cas de diminuer les problèmes. Alors, c'est quoi l'idée au niveau spirituel et qu'ils vont ensemble? Donc, d'une part, la Torah nous raconte un problème en deux nations qui ne vont pas aller l'un avec l'autre, mais d'une autre part, la Torah nous raconte qu'à l'intérieur de nous, on a deux nations. Deux nations. Et ces deux nations, il est marqué dans Tania, mais en vérité, on les trouve aussi dans les livres qui ne sont pas des livres de philosophie. On trouve qu'à l'intérieur de chacun, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui s'appelle... Alors, je vais plutôt utiliser le langage qui est marqué dans Tania. Il y a un mouvement qui s'appelle Nefesh Elokit, il y a un mouvement qui s'appelle Nefesh Abéamit. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, plutôt par la deuxième, c'est la partie égoïste en nous, qu'il cherche, c'est la partie animale. Comme l'animal, elle cherche son bien-être, et ça c'est pas mal, mais le problème, ça peut nous mener vers des problèmes. Quelqu'un qui cherche son bien-être, alors il peut connaître, il peut ne pas connaître les limites parce qu'on cherche toujours ce qui est bien pour moi, donc ce qui m'intéresse c'est mon bien, et alors à ce moment-là je pense qu'à moi, c'est possible, mais ça veut dire que quand je développe cette volonté tout autour de moi et de mes désirs animaux, alors si je ne sais pas limiter ça, alors à ce moment-là, on peut arriver très loin. Et tous les problèmes du monde, tous les problèmes des sociétés, même tous les problèmes du monde se trouvent ici qu'on ne sait pas limiter l'envie animale. Donc chacun, il a une envie animale en lui. Et ensuite, à côté de ça, il a des envies spirituelles. L'envie, c'est ce qu'on appelle l'envie divine. Il y a... Les gens qui ne savent pas pourquoi un jour ils ont une volonté, et parfois ils ont d'autres volontés qui opposent. Mais la Chassidut, et surtout dans le livre de Tania, il explique qu'effectivement, ce n'est pas la même personne qu'une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. À l'intérieur de nous, on a deux volontés qui sont opposées. Ces volontés, ils viennent de deux sources. Là, on a une volonté spirituelle. Et de l'autre côté, on a une volonté matérielle. Et ils ne vont pas ensemble. Parce que, là aussi, il faut expliquer pourquoi ils ne vont pas ensemble. Parce que quand j'ai ce mouvement de vouloir encore avoir, alors quelque part, ce n'est pas exactement la volonté spirituelle. La volonté spirituelle nous tire vers un autre horizon. Donc alors, il y a deux mouvements. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je sais que dans les livres philosophiques, il me semble de Freud ou d'autres, il explique que oui, l'homme il doit vivre tout le temps avec ça, et normalement, il est là pour perdre. Ça veut dire qu'il faut connaître qu'on a en nous des mauvais penchants, et finalement, c'est les mauvais penchants qui gagnent sur les bons penchants. Mais la chassidoute, elle ne pense pas comme ça, parce que la chassidoute, elle est Tania. Il pense que c'est le contraire, on a la possibilité, comme il explique très longuement dans la Tania, et d'ailleurs Tania c'est un livre excellent de la philosophie générale aussi, elle nous explique qui nous sommes. Donc dans la Tania, il explique au contraire, on a la possibilité que l'âme divine prenne le, quelque part le dessus, elle va prendre, donc elle va nous diriger. Finalement, l'homme il saura limiter cette âme animale, que c'est nécessaire, parce qu'encore quelqu'un qui a des volontés sans limite, alors c'est une catastrophe. Ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les coins où on tourne, les gens qui ne savent pas leurs limites, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour plusieurs raisons, mais c'est une catastrophe aussi parce que quand on ne connaît pas nos limites, on fait n'importe quoi dans tous les domaines. Donc il faut savoir ses limites. Mais est-ce qu'on est capable de se limiter? Alors oui, on a cette âme divine qui nous pousse vers quelque chose, vers un autre horizon. Et on a la possibilité, quelque part, que l'âme divine, elle va corriger l'âme animal. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas exact, parce que parfois on l'explique autrement, mais il y a cette vision aussi dans ce domaine. Alors, dans la paracha, on parle de deux peuples qui sont carrément différents. Et là, quand là il monte, l'autre il descend, quand là il monte, l'autre il descend. Et là, on a vu aussi les notions plutôt spirituelles de cette idée que ça se trouve à l'intérieur de nous, qu'on a deux volontés. D'une autre part, on a une volonté animale qu'on vit avec, mais il faut savoir la limiter. D'une autre part, on a une envie spirituelle. Il y a certaines personnes que c'est plutôt animal, il y a certaines personnes que c'est plutôt spirituel, mais il y a ces notions. Et quelque part, le conflit est éternel, sauf si la personne, elle arrive à lui-même, il peut choisir qui est-ce qu'il prend, met en première ligne, et à ce moment-là, c'est là, il domine l'autre. Donc ça, c'est d'une façon générale, cette vision. Maintenant, si on va aller plus loin, mais comme on a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les gens qui se comportent mal, c'est à cause de leur éducation. Mais ici, la Torah nous révèle que ce n'est pas seulement l'éducation, ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire à l'intérieur de nous-mêmes, avant l'éducation, il y a déjà ce conflit. Si on parle de ces deux peuples, de Yaakov et de Esav, alors la Kabbale nous explique que ce qui s'est passé dans le corps de Rivka, donc la femme d'Yitzhak, c'est parce qu'ils ont une origine spirituelle. Donc, dans l'origine spirituelle, il y a déjà un conflit. Avant même la création du monde, comme ça on nous explique dans la Kabbale, Dieu il a créé du monde, des mondes, il les a détruits. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il comprend qu'il a fait des tests. Dieu n'a pas besoin de faire des tests. Et pour des choses évidentes, mais là aussi je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va nous prendre tout le temps. Mais en tout cas, il est marqué que Dieu il a créé un monde, mais il les a détruits. Du monde en pluriel, et il les a détruits. Et ensuite, il a créé un autre monde à nous. Le monde qu'il a créé avant, il s'appelle le monde de Tohu. Tohu, ça veut dire un monde qui, quelque part, on peut utiliser la notion de Toy Boy. Ça veut dire un monde qui a un problème d'ordre. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester. Il y a trop de conflits, trop de problèmes entre les différents dans ce monde. Et ensuite, il a créé un monde, le monde à nous, où dans ce monde, on peut faire un ordre. Et les gens ici, bas, ils ont une origine de ce monde. Donc alors, ils savent, ces personnes, qu'après on trouve cette personne excitante, cette personne qui s'excite. Donc son origine c'est spirituelle, il est de ce monde qui s'appelle Tohu. Par contre, Yaakov, qu'il est quelqu'un qui est posé, c'est que son origine est de ce monde qui s'appelle Tikkun. Donc alors, la différence d'Esav et Yaakov ne commence même pas dans le ventre de leur mère, ça commence de leur origine. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est dans un monde. Pourquoi Dieu il a créé ce monde mauvais, ce monde de Tohu, puisqu'on ne le veut pas. Alors, le moqueur aussi, c'est un des sujets intéressants, en fait. C'est parmi les sujets très intéressants dans la Kabbale. C'est qu'il y a quelque chose de positif dans ce monde qui s'appelle Tohu. Mais il doit, pour qu'on sorte, pour qu'on comprenne la positivité de ce monde, il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut faire un ordre. Comme beaucoup de choses, que ça dépend comment on l'utilise. Aujourd'hui, on a peur de bombes atomiques. Mais est-ce que les bombes atomiques négatives et positives, ça dépend de quoi, qu'est-ce qu'on fait avec. Si on fait des bonnes choses, alors c'est très positif. On peut faire pas mal de choses très positives avec ça. Mais puisqu'on a peur des côtés négatifs de ça, alors à ce moment-là, c'est plutôt négatif. Tohu, qui est représenté par Esav, tout seul, sans que Yaakov il s'occupe de lui, ça représente quelque chose de très très négatif. Par contre, si Yaakov il va travailler avec Esav, donc, alors à ce moment-là, c'est pas que Yaakov il va utiliser Esav pour le bien du monde. J'ai touché un sujet qui mérite plus de temps, mais je vais quand même essayer de terminer le sujet, même si on n'a pas bien expliqué le sujet. Il est marqué dans notre paracha qu'il y avait un conflit entre Yitzhak et Yaakov, entre Esav et Yaakov, et quand même, la Torah nous raconte que Yitzhak, il avait une préférence pour Esav, et Rivka, la mère, elle avait une préférence pour Yaakov. Et on explique dans la Chassidut, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, pourquoi Yitzhak, il préfère. Déjà, cette notion de préférence, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, on peut comprendre que pour là, le schéma qui mène là, je préfère ce schéma. Et pour l'autre, je préfère plutôt le schéma de l'autre. Mais comment on peut comprendre que si Esav, il était quelqu'un qui fait des problèmes autour de lui, et pourquoi Yitzhak, il préfère son fils Esav, puisque ce n'est pas du tout son schéma. Yitzhak, c'était quelqu'un qui était aussi posé, quelqu'un qui était... Il était studieux, qu'il a fait des billards. Et là, d'un coup, il a un fils qui est excitant, qui fait des problèmes autour de lui. Et il sera qu'il préfère Esav. Alors, il a marqué dans la Kabbale, c'est que dans chaque chose négative, il y a quelque chose de positif. Seulement qu'il faut savoir comment on s'occupe des négatifs pour le rendre positif. Et ça, c'était le travail d'Yitzhak, plus que le travail d'Abraham, qu'il a rendu beaucoup de choses négatives au positif. Donc, alors, quand il voit son fils Esav, alors même si je sais qu'il y a d'autres explications, il y a cette explication qu'Yitzhak, il n'a pas vu clair, on l'a trompé, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante, parce que comment on peut tromper quelqu'un à tel point? Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il a marqué dans la Chassidut, que Yitzhak, il avait une vision plus profonde. Comme si je vois quelqu'un qui est très, très excitant. Alors, je peux lui mettre en prison. Je peux dire, oh là là, il y a une catastrophe qui peut sortir de cette personne. Je vais le mettre en prison. Et je peux aussi dire, ah, une personne comme ça, il peut bouger le monde, il peut faire avec lui, on peut faire beaucoup de grandes choses, changer le monde vers les notions positives. Mais on prend des risques. Il y a parfois des gens qui sont fichés. On les sort parce qu'on espère qu'on puisse faire quelque chose avec eux. Pas seulement qu'on puisse faire quelque chose avec eux. On espère qu'on va l'éduquer. Ils vont sortir très très bien. Ils vont dépasser les autres. Grâce à leur énergie, on peut faire quelque chose de positif. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et ces gens, ils continuent avec leur terrorisme. Et à ce moment-là, les gens, ils demandent, mais il était fiché, est-ce pourquoi vous l'avez laissé en liberté? Mais on est dans un monde, c'est une question très très difficile, mais on est dans un monde où il y a deux visions. Il y a une vision de, on voit le positif. Mais il y a des gens qui ont un point, une tâche négative, très négative. Mais on est obligé de voir, ça c'est la vision chassidique plutôt, de voir le positif dans le négatif. Mais il faut faire attention. Il faut le faire avec précaution. Donc alors Yitzhak, il a vu en Esav, comme il est marqué dans la Kabbale, son origine spirituelle. Et si on va pouvoir développer le positif dans le négatif d'Esav, alors à ce moment-là, le monde va changer. Ce qu'on appelle la période messianique, ça veut dire la période où le mal devient bien. Et Yitzhak, il espérait que c'est le moment. Donc c'est pour ça qu'on trouve à la suite de la paracha que Yitzhak, il avait une bénédiction à donner. Une bénédiction, ça veut dire il a des pouvoirs. Si il va donner à quelqu'un, Dieu lui donne le pouvoir de parler, de bénir. Donc il cherche qui est-ce qu'il va bénir. Est-ce que Yaakov ou bien Esav? Alors, lui, il pense, en tout cas, c'est comme ça qu'explique le Kabbal, lui, il pense que s'il va bénir Yaakov, alors bien sûr qu'il y aura de bonnes choses qui vont sortir de là. Mais s'il va bénir Esav, il va développer ses capacités cachées et tout le monde va en profiter. Yaakov, qu'il est tranquille, et Esav, qu'il est excité. Donc à ce moment-là, il va changer le monde, il va faire de belles choses, en sachant qu'Esav, il a un problème. Mais en sachant aussi qu'Esav, il a une source beaucoup plus... Quelque part dans l'origine, il y a quelque chose de plus haut que... En tout cas, quelque part, à un certain niveau, il y a quelque chose de plus haut que Yaakov. Mais très souvent, on dit que les femmes sont plus pratiques que les hommes, en tout cas dans certains domaines, certains couples. Donc alors Rivka, elle a compris ce que pense Yitzhak. Mais elle, elle a vu les choses avec d'autres lunettes. Elle a vu la réalité actuelle. Elle a vu qu'actuellement, Esav est très très loin d'être changé. Donc elle a tout fait, comme il a marqué dans la paracha, de tromper son mari, que Yaakov il trompe son mari, Yitzhak, il s'est déguisé à Esav, comme la Torah nous raconte, et finalement, les bénédictions sont revenues à lui. Et une fois qu'Yitzhak il a su que l'erreur qu'il a fait, il a accepté, parce qu'il a compris finalement le message que oui, on veut beau faire, mais ça ne marche pas toujours. Donc alors ça nous donne une idée de cette vision du monde. On est dans un monde compliqué, c'est vrai. Et que ce monde, la vision, comment on peut comprendre notre monde, se trouve dans notre paracha. On est à l'intérieur de nous, et chacun à l'intérieur de lui, et on peut le voir d'une façon de peuples, de différents peuples, des gens qui sont différents, et il faut savoir comment les prendre. Alors malheureusement, parfois, il faut le faire par force, si on n'a pas le choix, mais le but final, c'est que le mal, il va devenir bien. Et c'est ça qui Yitzhak, que selon la Kabbale, c'est lui le maître de... Quand le Messie va venir, on va dire à Yitzhak, c'est toi qui es notre père. Il est marqué pourquoi, mais en tout cas, Yitzhak, on trouve à Rosh Hashanah, on trouve quelque chose de spécial avec Yitzhak. Yitzhak, il essaye de rendre le mal bien. Même si qu'il n'arrivait pas à l'époque de le faire, mais ça c'est le but. Ça c'est le but de toute notre vision de judaïsme. Il y a du mal, il y a du bien, il y a un conflit. Mais le final, c'est que le mal, il va devenir bien. Mais ce n'est pas en un jour, c'est un long travail. Mais c'est ça l'idée. Donc alors, si on essaie de retenir de notre paracha quelque chose, à savoir que cette paracha, c'est une paracha très philosophique. Très, en fait, si on peut dire, bien sûr, toute la Torah. Mais aussi au niveau psychologique, à comprendre qui nous sommes et quels sont nos problèmes, le psychologue devrait étudier cette paracha un petit peu plus en profondeur et prendre le Tanya. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils psychologiques à partir de Tanya. Il y a des livres parce que ça nous touche, ça traite les problèmes humains. Comment traiter? Donc, on parle de deux personnes. À partir de deux personnes, on parle de deux peuples. D'une autre part, on nous dit que ces deux peuples se trouvent à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire que c'est l'histoire du monde. Et ce monde nous dit, et donc cette histoire du monde nous dit qu'il y a des conflits. Et parfois, on a du mal à gérer ces problèmes. Parfois, ces problèmes nous mènent en conflit, qu'on a l'impression que c'est un conflit éternel. Mais parfois, on nous dit, c'est ça le but final, que le bien va pouvoir dominer le mal, à tel point que le mal, il va devenir positif, mais pas seulement qu'il va devenir positif, il va se taire, que ça va être une nouvelle énergie, que tout le monde va profiter de cette énergie, le bien et le mal. En tout cas, ça c'est une petite idée de notre paracha, que j'espère que j'aurais pu développer autrement, mais en tout cas, c'est une idée très basique, et que Hachem fasse qu'on arrive finalement à ce but, que le mal va devenir bien, et que finalement, les conflits vont cesser. Encore une fois, ce n'est pas que les conflits vont cesser, ça veut dire que finalement, chacun il va aider l'autre. Ce n'est pas qu'ils vont vivre là à côté de l'autre en paix, et il n'y aura rien qui va se passer. Moi, je suis chez toi, toi, tu es chez... Moi, je suis chez moi, et toi, tu es chez toi. Au contraire, chacun il profite des qualités des autres. Et c'est ça l'idée aussi messianique. Merci pour votre écoute. Et à la semaine prochaine.